Alléluia. De l'inspiration plus un peu de transpiration. Ah. Vous avez sans doute remarqué que sur les quatre évangiles, deux seulement parlent des événements de Bethléem. Les anges, les bergers, les mages, Marie, Joseph, la crèche. Et je me suis un peu interrogé là-dessus. Pourquoi les deux autres textes, celui de Marc et celui de Jean, n'en disent strictement rien? Alors ça devrait, je pense, nous faire réfléchir. Et puis ce matin, ça va nous conduire dans cette méditation. Je vais donc lire des textes en évitant Matthieu et Luc. Mais en allant chez Marc, au début de son évangile, et chez Jean. Donc nous lisons Marc, chapitre 1er, verset 1 et verset 7 à 11. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Verset 7, il s'agit de Jean-Baptiste, qui avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins et qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est bourré de vitamines, les sauterelles. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 29. Verset 29, il s'agit encore de Jean-Baptiste, l'acteur de cette scène. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Un dernier texte qui va peut-être nous sembler mal à propos, mais il sera intéressant aussi. Galates, chapitre 4, verset 19. Paul s'adresse aux chrétiens de Galatie. Les Galates, c'était des Gaulois à l'origine. Et comme tous les Gaulois, ils étaient un peu instables. « Mes enfants, dit-il, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Voilà. Dans ce silence de Matthieu et de Luc, j'y reviens, nous avons peut-être là un indice intéressant et critique. Intéressant parce que il limite la place donnée à Noël avec tout le décorum qui l'accompagne et qui est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Le Nouveau Testament pose, je dirais, une certaine sobriété, une certaine limite. Mais c'est aussi un aspect critique par la question qui pourrait être posée, qui pourrait nous être posée. Une bonne question. Qu'est-ce qui est vraiment décisif pour nous dans l'histoire de Jésus? Qu'est-ce qui change les choses? Un indice, on a fêté Noël qu'après le IIIe siècle. Alors que, dès le début, on a rappelé la mort et la résurrection de Jésus dans chaque communauté chrétienne, dans chaque rassemblement des croyants. Par la scène, la table du Seigneur, on a rappelé que Jésus est mort pour nous et qu'il vient. Il vient. Certes, on peut dire que les récits de la nativité chez Matthieu et Luc sont précieux parce qu'ils mettent en évidence le surgissement de Dieu dans l'histoire des hommes. Mais ce n'est pas un surgissement en fanfare, n'en déplaise aux chorales célestes qui ont ravi l'oreille des bergers. Ce surgissement de Dieu se fait dans l'humilité, dans la faiblesse, dans la fragilité et sous la menace de la mort. C'est le grand paradoxe de l'Évangile qui est là. Et je pense que, oui, c'est bien que Matthieu et Luc nous présentent les choses comme ils le font. Mais il m'a semblé que le silence des autres récits, c'est-à-dire Marc et Jean, est aussi plein d'une atmosphère de nativité, de commencement. Et ça, dans une perspective élargie aux dimensions de l'univers, de l'espace et du temps. D'ailleurs, le premier mot de l'évangile de Marc, c'est... Oh, je suis réveillé là. Commencement. Commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur ce verset que j'appellerais un verset programme. Trois mots résument ici l'évangile tout entier. Jésus. Jésus, parole de Dieu faite chair, comme dit Jean. L'homme de Galilée. À Marie, il avait été dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Sauveur. C'est l'être de chair et de sang au travers duquel Dieu vient jusqu'à nous. Commencement de l'évangile de Jésus. Le deuxième terme, c'est Christ. Christ, il y a beaucoup de gens dans la rue qui croient que Jésus, c'est le prénom et Christ, c'est le nom. Monsieur Jésus-Christ. En fait, Christ, vous le savez bien, c'est son rôle, sa mission. Il désigne la mission de Jésus jusqu'à la mort. Il est le Christ, loin du Seigneur, L'apostrophe O-I-N-T, hein, pas loin. Il est celui que Dieu a oint, a désigné, a mis à part pour un service unique, glorieux et éternel. Christ. Il n'y en a qu'un. Il y avait des Christs dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des personnages qui recevaient une onction d'huile. Il y avait le prêtre, il y avait le prophète, il y avait le roi. Mais c'était des Christs en ébauche, des Christs antérieurs. Jésus Christ est Christ par excellence. Il est le Christ des Christs. Et le troisième terme, qu'utilise Marc, c'est fils de Dieu. Fils de Dieu annonce plus que Bethléem, annonce Pâques, la croix, la résurrection. Et Paul le dit dans sa lettre aux Romains, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Pas de résurrection, il n'y aurait pas de fils de Dieu. Il y a fils de Dieu parce qu'il est vivant. Il vit par la gloire du Père. Voilà comment Marc ouvre son récit. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Et c'est vraisemblablement là la confession de foi la plus ancienne de l'Église. Vient ensuite dans l'évangile de Marc, comme dans celui de Jean, le récit du baptême de Jésus. Et je voudrais en parler comme une sorte de naissance. Je vous l'ai dit, ces récits de Marc et de Jean transpirent la nativité. N'est-ce pas, Jean-Noël ? Oui. Oui, c'est toi. Bon. Oh là là. Noël, c'est nativité, hein ? Natale, in italiano. Ces récits transpirent la nativité, même s'ils n'en parlent pas à Bethléem. Marc et Jean transpirent la nativité. Et pas seulement en leur début, mais jusqu'à la fin. Le baptême de Jésus, vu comme une sorte de naissance, de révélation de ce qui était caché jusque-là. Comme lorsqu'il s'agit d'un bébé qui vient au monde. Jusqu'au bout des 9 mois, il est caché. Hein, Laurence ? On ne le voit pas. Et puis, le jour de la naissance, il va être manifesté aux yeux et aux oreilles de tout le monde. Croyez-en un homme d'expérience. Bon courage. Selon Marc, l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, descend sur Jésus au sortir de l'eau. Dans les accouchements, il y a de l'eau. On perd les eaux. Et Jésus semble naître justement du sein de l'eau par Jean-Baptiste. Il sort du Jourdain. Mais une colombe, l'eau, ça ne vous rappelle rien. Noé. Noé, exactement. C'est quoi l'histoire de Noé ? L'histoire de Noé, c'est la naissance d'un monde renouvelé. N'est-ce pas un trait commun avec l'Évangile ? Comme au jour de Noé, un monde nouveau est en train de naître à partir du baptême de Jésus. Et Dieu confirme une voix, façon de ne pas nommer Dieu, mais de le désigner quand même. Une voix proclame « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis mon plaisir. » Ou selon les versions « En toi, j'ai mis toute mon affection. » Ou « Il m'a plu de te choisir. » Dieu se déclare Père de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est une sorte d'accoucheur, un sage homme. Il accouche du ministère public de Jésus. Parce qu'après le baptême, Jésus va pouvoir commencer son ministère, c'est-à-dire son service. Ce que dit l'Évangile selon Jean également, chapitre 19, les versets 19 à 31. C'est en vue de sa manifestation que, à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. Un accouchement. Ce qui était caché dans toute l'histoire d'Israël, ce que les rois et les prophètes avaient salué d'avance sans le voir, sans l'entendre. Mais en l'attendant, ce que donc les rois et les prophètes n'ont pas eu le privilège de voir et d'entendre, comme le dit Jésus à ses disciples, est maintenant là, manifesté. au sortir du Jourdain, au sortir de l'eau. L'évangile selon Jean peut permettre une comparaison entre le rôle de Jean-Baptiste et celui de Marie, parce qu'il faut quand même parler d'elle. Alors bien sûr, Noël, c'est la mise en évidence de Marie, la Vierge Marie. Mais il n'y a pas que ça. Son rôle ne s'arrête pas là. Au commencement des signes opérés par Jésus dans l'évangile selon Jean, qu'est-ce qu'il y a ? Le premier des signes, allez, dites-moi. C'est quoi le premier des signes d'après Jean ?
Cana.
Oui, les noces de Cana. Constatant le manque de vin, Marie semble vouloir pousser Jésus à faire un coup d'éclat. Poussez, madame. On entend ça dans les maternités. Elle pousse Jésus, mais clairement, Jésus renâcle. Par une parole un peu rude, il s'adresse à sa mère et lui dit « Femme, de quoi te mêles-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Je ne suis pas mûre. » Mais elle pousse encore. Et elle passe par-dessus ce que Jésus lui répond, et elle dit à la cantonade, « Faites ce qu'il vous dira !» Elle est pleine d'espérance, Marie. D'ailleurs, dans le midi de la France, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle est en espérance. L'espérance. Noël, c'est l'espérance, oui. Clairement, Jésus y va un peu à reculons, et vous connaissez la suite. Ben, remplissez d'eau ces vases. Un jour, il faudra qu'on voie ce récit comme une allégorie. Le manque de vin, c'est l'insuffisance de l'ancienne alliance. Les 7 hectolitres de vin nouveau, meilleur et supérieur, c'est la nouvelle alliance. Mais je ne vais pas m'égarer là-dedans aujourd'hui. Et l'évangile de Jean commente cette manifestation de Jésus aux noces de Cana. Il dit, il manifesta, encore ce mot, sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oh, il y aura des baisses de régime dans la foi des disciples. Mais là, premier coup d'éclat, les disciples crurent en lui. Donc ici, en quelque sorte, Marie met au monde le Christ. À Bethléem, elle met au monde Jésus. À Cana, elle met au monde le Christ. Et le tombeau, qui était vierge aussi, je vous le signale, met au monde le Fils de Dieu par la résurrection. Autrement dit, j'ai l'impression que... tout l'évangile, c'est une nativité. Tout l'évangile est une nativité, la naissance de quelque chose. En voyant le petit nombre que nous sommes ce matin, je me disais, quelqu'un qui ne nous connaît pas entrerait et dit, mais c'est un résidu, ça. C'est un résidu, cette église. Un petit reste. Et si nous pensions autrement, non pas un résidu, mais un embryon. Quelque chose d'embryonnaire. C'est ça l'évangile. Et cet embryon n'a pas fini de se manifester et de se développer. Car la bonne nouvelle de Dieu, c'est que le monde, l'histoire, l'espace et le temps seront bientôt tout saturés de sa présence. Ce sera le Noël de Dieu. Mais en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais la naissance de Jésus-Christ appelle à d'autres naissances. Par exemple, Jésus dit à Nicodème, le pharisien venu le trouver de nuit, que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Tiens, tiens, il faut naître de nouveau. Bien sûr, la nouvelle naissance est un langage connu de la philosophie grecque et d'autres religions. Mais moi, je le mettrais plutôt en parallèle avec ce que dit Paul. Vous étiez morts dans vos péchés et maintenant vous êtes ressuscités avec le Christ. Autrement dit, la résurrection est une naissance. Il faut vivre une résurrection. Il faut vivre une naissance si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, précise Jésus à Nicodème. Parce qu'il ne comprend pas, hein. Il ne peut tout de même pas rentrer dans le ventre de sa mère, la pauvre. Et naître une deuxième fois. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine, est humain. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est-à-dire que cela participe à la dimension divine. Réjouissez-vous, il nous a rendus participants de la nature divine. C'est pas rien, ça. C'est tout simplement incroyable. Enfin, justement, il faut le croire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aille voir du côté de l'apôtre Paul. Lui aussi est un accoucheur. Par son service d'apôtre, c'est-à-dire par sa prédication de l'Évangile, Paul a conscience de donner naissance aux communautés qu'il fonde, aux hommes et aux femmes qui se convertissent, touchés par sa prédication. Il appelle Timothée, comment ? Son enfant dans la foi. Il en est de même à propos d'Onésime, vous savez, l'esclave de Philémon, qui filait du mauvais coton. Lettre à Philémon, versets 9 à 12. Au nom de l'amour, dit Paul, je t'adresse une requête, cher Philémon. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré dans les chaînes. C'est fort comme expression. Onésime, qui jadis t'a été inutile et qui maintenant nous est utile à toi comme à moi, je te le renvoie, lui qui est mes propres entrailles. Dis donc, Paul se prend pour une femme enceinte, enfin, qui a donné naissance. Paul donne naissance à des choses. Et là, que l'on soit homme ou femme, on peut donner naissance. Parce qu'on est dans un autre registre que dans les choses naturelles. On est dans le registre du royaume des cieux. Et plus remarquable encore, ce passage de la lettre aux Galates que nous venons de lire, où Paul dit « Enfanté à nouveau dans la douleur, ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens de Galatie, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Attachez vos ceintures, parce que ce raisonnement est assez vertigineux. Paul enfante les Galates par la prédication de l'Évangile, et Jésus-Christ doit naître chez les chrétiens par ce même évangile, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, comme un embryon qui se développe et qui va permettre à tous ces croyants d'acquérir le caractère, la pensée, l'intelligence de Jésus-Christ. Quel renouvellement extraordinaire! Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc là, il a déjà enfanté les Galates par la prédication de l'Évangile. Mais ces Galates instables, avait été tenté par le retour vers la loi. Des personnages venus de Judée étaient venus les troubler, un petit peu comme à Antioche, en leur disant que si vous voulez vraiment être sauvés, il fallait endosser l'identité juive. Circoncision, la cacheroute, c'est pas le casse-croûte, hein, c'est la nourriture cachère, pas chère. Ils étaient tentés par cela. Ils étaient tentés de surajouter à la foi en Jésus des précautions religieuses que Paul qualifie d'inutiles et vaines. Mais il y a attention. Si vous vous faites circoncire, c'est-à-dire si vous faites un aller-retour de l'ancienne à la nouvelle alliance, ou plutôt de la nouvelle à l'ancienne alliance, Christ ne vous servira de rien. Ouf, vous êtes déchus de la grâce, ira-t-il jusqu'à leur dire ça. Vous qui voulez vous mettre sous la loi. Donc Paul est vraiment dans les douleurs de l'enfantement, il a des contractions, il va mal. Et il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et Christ formé en nous, c'est la liberté des fils de Dieu. Ce n'est plus des gens qui marchent dans la peur. La peur de la colère divine prête à tomber sur les contrevenants à sa loi. Non. Vous vous rendez compte? Quel changement? Un fils, c'est quelqu'un qui est libre dans l'amour. Alors bien sûr, ça s'équilibre, ça. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi. La liberté, c'est suivre les inspirations de l'amour. Donc on est quand même lié par une autre loi, celle de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Cet esprit qui met en nous l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour divin. Par l'annonce de l'Évangile, les croyants sont engendrés pour grandir et parvenir à la maturité, à la ressemblance de Jésus-Christ. Le but est de former Jésus-Christ dans le cœur, dans l'intelligence, dans la volonté, dans les comportements des croyants. Et puis, Jésus en a rajouté. Quand il dit dans l'évangile de Jean, je ne sais plus le passage exactement, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Il faudra qu'on revienne là-dessus. Donc on a vu trois portraits là, trois visages. On a vu Jean-Baptiste, on a vu Marie, et on a vu Paul. On pourrait certes en nommer beaucoup d'autres. Tous trois prolongent Noël dans la durée et dans l'espace. Question, quand cela s'arrêtera-t-il? Jamais. Autrement dit, le véritable Noël qui nous réjouit, qui nous remplit d'allégresse, c'est que ça continue de naître. Ça continue de naître dans nos cœurs, dans nos vies. Mais aussi, nous sommes rendus capables d'engendrer à notre tour, par la prédication, bien sûr, et par notre témoignage à chacun, à chacune. Nous sommes tous capables d'engendrer d'autres brebis pour le troupeau. Je me souviens d'un pasteur qui était venu prêcher à Royan et il avait dit dans sa prédication, vous savez, quand un troupeau grandit, ce n'est pas le berger qui a fécondé les brebis. C'est le troupeau qui se féconde lui-même. Ainsi en est-il de l'Église. Donc Noël, ça continue. Ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à la fin de l'histoire. Nous recevons la mission de faire naître par l'Évangile, de faire grandir par l'Évangile d'autres que nous-mêmes. J'ai toujours le sentiment parfois que nos chants, nos prières, notre vie d'église tournent un peu sur elles-mêmes, en circuit plus ou moins fermé. Et ce n'est pas juste. Il faut que nous ayons cette vision. Nous sommes là pour les autres, nous sommes là pour la société, pour les gens qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Que Dieu nous donne le désir de les engendrer aussi pour le royaume de Dieu, ce désir profond. Nos trois personnages ont quand même quelque chose en commun, Jean-Baptiste, Marie, Paul. Ce sont des souffrances à envisager. Une grossesse, c'est pas toujours rigolo. Il y a des moments un peu raides. Comme pour toute mise au monde, Marie prend le risque de passer pour une fille de mauvaise vie. C'est un vrai risque, parce qu'on badinait pas avec ça à l'époque. Et puis Siméon, le vieux Siméon, lui annonce qu'une épée lui transpercera l'âme. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très réjouissant, ça. Ça peut être, hein, bon. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'efface devant celui qui est plus grand que lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il finira assassiné dans la prison d'Hérode, précédant en cela aussi Jésus lui-même, dans la mort. Paul aussi a beaucoup souffert, bien des tourments, et la liste serait trop longue à établir ici, dans l'accomplissement de son service, et on croit, on pense savoir qu'il a fini martyr à Rome. Oui, à la suite de leur Seigneur, ils ont la souffrance en commun. Ils ont en commun la renonciation à eux-mêmes. Ils ont en commun l'humilité, un amour passionné et coûteux. Alors, j'ai pensé là que nous aurions peut-être une clé pour la vie de l'Église, de toute Église, pas seulement celle de Kevin. Une clé pour la vie de l'Église. Renoncement, humilité, amour. Voilà, l'Église n'est pas un champ de course, un lieu d'affrontement, de compétition, de compétitivité, dont on nous rebat les oreilles. L'Église n'est pas cela. C'est un lieu de renoncement, d'humilité et d'amour. D'une certaine manière, ne sommes-nous pas tous des accoucheurs d'autres croyants, les accoucheurs les uns des autres. L'Église, c'est la nativité des autres, un Noël permanent. C'est la naissance rendue possible d'autres, meilleurs que nous. Le Seigneur ne nous demande pas d'être tout, comme dans les sectes, où il y a un leader qui est tout, à lui tout seul, ou dans une certaine église que vous connaissez bien, où l'évêque à lui tout seul est l'église. Là où est l'évêque, là est l'église. Bon, non, c'est pas juste. Le Seigneur ne nous demande pas d'être tout, mais d'agir pour permettre la manifestation de nouveaux talents, pour accepter d'être dépassés par ceux que nous aurons contribué à faire naître. Oui, au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, verset 12, il y a ces paroles. « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Jésus veut donner naissance à des gens presque plus performants que lui. Et quand vous lisez le livre des Actes, il y a des miracles extraordinaires qui se font, qui n'avaient pas eu lieu, semble-t-il, du temps de Jésus. Pensez à Paul, on met un mouchoir sur lui, on remet sur les malades, pouf, il est guéri. Dites voir, l'ombre de Pierre passe sur les gens, ils sont guéris. Je ne sais pas si Luc était de Marseille et qu'il exagérait, mais quand même, il y a là quelque chose de plus grand, en tout cas d'une plus grande amplitude, qui va atteindre les dimensions du globe terrestre, du monde tout entier. Jésus l'avait prédit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, et alors seulement viendra la fin. La fin. Mais voyez-vous, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Le commencement est dans la fin. Comment voyez-vous la fin du monde ? Un tas de cendres atomiques ? Ou un renouvellement inouï de toute chose dans la lumière du royaume ? Il y a deux visions là. Celle de, je crois que c'est Jude ou Pierre, enfin qui annonce un feu qui détruit tout. Les éléments consumés se dissoudront, c'est sûrement vrai. Mais ce n'est pas la seule chose. Dieu rachète, Dieu récupère. Il récapitulera en Jésus-Christ notre histoire. Le commencement est dans la fin. C'est-à-dire que nous allons vers quelque chose de meilleur. Le meilleur est devant nous, a-t-on l'habitude de dire. Joyeux Noël. Amen. Permanent. Joyeux Noël permanent.